Chaque prédicateur qui vous apporte la parole de Dieu, vous est redevable à chacun d'entre vous, non seulement d'avoir bien travaillé l'exégèse, c'est-à-dire la compréhension du contexte, etc., l'herméneutique, l'interprétation et l'application à vous transmettre. Et il est de votre devoir, ne croyez pas que vous n'avez rien à faire dedans, de vous poser les bonnes questions, de vérifier que ce que le prédicateur vous dit est bien écrit dans la parole de Dieu. De venir l'interroger à la fin, ou de venir interroger votre pasteur, votre équipe d'anciens, le responsable de l'enseignement. Ne restez pas avec vos questions sur vos cœurs. Alors vous pouvez les poser directement à Dieu, et les poser aussi à tous ceux qui ont peut-être plus d'expérience, plus de maturité peut-être dans la foi, qui ont étudié la parole de Dieu plus longtemps avant vous. C'est votre rôle. Et priez qu'à chaque fois que vous venez à l'église, Dieu vous enseigne et vous apprenne quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà, stop. Alors, après, voilà, Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile, brise-moi, façonne-moi. Alors, bon, chanter brise-moi, c'est peut-être un peu difficile si on met vraiment du sens derrière ces paroles. Le façonne-moi est aussi difficile, parce que bon, c'est dur d'être malléable. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi après. Oui, c'est mon désir. Et ce matin, la parole que je vais vous apporter, elle témoigne à ça. Donc je remercie le Saint-Esprit, parce qu'il est là et il dirige toutes choses. Et le Saint-Esprit, c'est une personne à part, qui vit en chacun de ceux qui acceptent que Jésus est leur sauveur personnel et leur Seigneur. Alors on a entendu, genoux te couronnons, Seigneur, tu es roi de ma vie. Mais à quel point est-ce vrai? À quel point est-ce vrai? Alors, tu peux remettre le cache. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis issu d'une formation scientifique, maternelle sup, maternelle spé, comme on dit. Donc, de par mes études et aussi dans mon caractère, mon père m'a façonné un peu dans cette idée-là de l'esprit critique, très à la française, hein. Pose-toi toujours les bonnes questions. Qu'est-ce que te dit le gouvernement? Qu'est-ce que te dit la télévision? Ah, ne te fie pas à un seul témoignage. Regarde, compare. Fais-toi ta propre idée. Et aussi, dès tout jeune, je me suis intéressé à cette question. Mais d'où vient-on? Mais d'où est-ce que je viens? Moi, simple homme. Quand je regarde la belle journée, Michel a dit, mais Seigneur, c'est une belle journée pour la fête des mères. C'est vrai, le soleil brille, le ciel est bleu, tous les arbres et les plantes sont en fleurs, c'est magnifique. Puis ce matin, quand on s'est réveillé avec Fanny, on a eu la chance d'être hébergé chez Michel et Louis. Et c'est la campagne, vous le savez, hein, c'est peut-être un peu loin d'ici, mais il y avait les oiseaux qui chantaient. Et nous, en ville, à Bordeaux, on n'a pas la chance d'avoir des arbres qui donnent sur la fenêtre et on n'a pas ces petits oiseaux. À quel point la nature, la création est belle. Et quand je regarde chacun d'entre vous, tellement différent et tellement beau, la complexité du corps humain. Alors, je ne connais pas le métier de chacun d'entre vous, mais dans notre église, il y a une médecin. Et souvent, je lui rappelle, je lui dis, mais t'es médecin, c'est bien, tu comprends en partie comment fonctionne le corps humain. Mais n'oublie pas à quel point c'est beau, le corps humain, la complexité du corps humain. Bref, donc ça m'a toujours laissé baba, dès tout jeune. Et quand j'étais au culte des enfants, ou l'école du dimanche, ça dépend comment vous l'appelez ici, on nous racontait les jolies histoires de la Genèse. Comme quoi Dieu avait fait la création en 6 jours, s'était reposé le 7e jour, etc., etc. Qu'il avait pris une côte d'Adam et avait fait Ève avec. Ça ne devait pas être agréable pour Adam. Heureusement, Dieu l'avait endormi. Bref, j'ai grandi et je suis arrivé au lycée. Enfin, d'abord au collège, puis au lycée, et puis il y a eu les cours de sciences naturelles. Et dans ces cours, on nous enseignait les théories de Darwin, l'évolutionnisme, l'évolution, des histoires de dinosaures. Et je retiens encore aujourd'hui cette citation de mon prof de sciences nat, qui ne faisait que répéter ce que Galilée a dit. Alors Galilée, c'est un grand scientifique, c'est celui qui a prouvé que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Et notre système solaire, c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil et pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Bref, Galilée, ce grand scientifique, a été accusé d'hérésie par l'Église en lui disant « Mais non, tu ne peux pas dire ça, la terre et l'homme sont au centre de l'univers. » Et Galilée leur a dit « La Bible ne décrit pas comment est le ciel, mais comment aller au ciel. » Et ça, c'est important de s'en rappeler. Cette citation a marqué un point clé dans l'histoire de la science. Galilée était croyant, mais il n'arrivait pas à concilier dans sa propre compréhension ce qu'il lisait en Genèse chapitre 1 et ce que les autorités, l'Église lui affirmaient, avec ce que lui voyait dans son télescope, ce qu'il calculait avec ses observations. La Terre n'était pas plate, c'était pas possible. La Terre n'était pas le centre du monde, ce n'était pas possible. Au contraire, le Soleil était bien l'étoile autour de laquelle gravitaient les planètes de notre système. Alors, qui avait tort ? Galilée, l'Église, les deux ? Aujourd'hui, nous savons que la science a donné raison à Galilée et l'Église l'accepte. Plus personne aujourd'hui ne contesterait le fait que la Terre tourne bien autour du Soleil en 365 jours, qu'elle est ronde. Il fut un temps où tout le monde croyait qu'elle était plate et que si vous alliez au bout du monde, vous alliez tomber dans l'espace. Enfin, bref, l'erreur à l'époque et l'erreur encore de nos jours qu'on peut entendre quand on témoigne autour de nous à des scientifiques ou des gens qui sont rationnels, c'est de dire que la science est opposée à la Bible. La science n'est pas opposée à la Bible. Ce n'est pas incompatible. Cette erreur, elle est liée de façon évidente à l'interprétation que pouvaient en avoir les auditeurs et les lecteurs de la Genèse, du récit de la création. Et ce matin, je vois que vous êtes bien assis, je vous invite à rester bien assis parce qu'on va remonter le temps ensemble. Installez-vous, et puis, bon, aujourd'hui c'est obligatoire, mettez vos ceintures, je vois que vous n'en avez pas prévu, mais quand vous allez dans des parcs d'attractions, quand on monte dans une machine à sensations, on met le harnais et on attache bien sa ceinture. Eh bien, on va faire un peu pareil. Puis dans la machine à remonter le temps, je vais rentrer la date ensemble. Le commencement. Ouvrons la Bible et lisons ensemble Genèse chapitre 1, versets 1 à 13. Et on va prier que, comme Michel me l'a dit hier, et sa compréhension des choses, que Dieu compresse le temps, n'est-ce pas ? Genèse 1, versets 1 à 13. Suivez-moi pour ceux qui le peuvent. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit, que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Écoutez-moi, mes amis, c'est déjà tellement incroyable que, hop, je vais mettre pause à notre machine à remonter le temps. Et je vous propose maintenant de revenir et de regarder au ralenti ce que nous venons de lire et de voir ensemble. Imaginez la naissance de notre univers. Dieu a façonné l'univers. Il est capable et il veut et il peut, si vous le souhaitez, comme on l'a chanté, de façonner nos vies. Mais à quel point voulons-nous le laisser façonner nos vies ? J'aimerais vous rappeler en première partie le contexte global, l'intention de l'auteur en racontant ça. L'aperçu que nous venons d'avoir ne vient pas de notre imagination ou de notre imagination collective, comme on pourrait l'entendre. C'est quelque chose qui nous a été transmis de génération en génération. Et qui est son auteur ? Moïse. Qui étaient ses auditeurs ? Le peuple juif. Et que voulait-il transmettre au travers de ce récit ? Moïse, de la tradition orale, a pris tout ce que Dieu lui avait donné et l'a retranscrit par écrit. Ses auditeurs étaient donc les Juifs, le peuple d'Israël. Et ils étaient fraîchement sortis de leur esclavage en Égypte. Les Juifs étaient alors entourés d'ennemis. Même les Égyptiens leur avaient couru après et Dieu avait refermé la mer Rouge sur eux. Ils sont entourés d'ennemis et de cultures qui sont opposées à la leur. Eux, ils croient en un Dieu unique. Et toutes les cultures alentour croient aux esprits, aux dieux de la nature, etc., etc. Bref, il était temps, après avoir passé 400 ans d'esclavage, de remettre les pendules à l'heure. Le récit de la création est là dans ce but. Rappeler au peuple juif, mais qui est Dieu, l'Éternel, Yahweh ? Qui est-il ? Qui est ce Dieu qui les délivre ? Quel est le plan qu'il a pour eux ? C'est quoi les amener en terre promise ? Quelles sont les promesses qu'il a données à Abraham, Isaac, Israël ? Quel est le plan qu'il a pour l'humanité ? Utiliser le peuple comme témoin pour l'humanité. Voilà le but de Moïse. Leur rappeler, nous rappeler à nous aujourd'hui, en 2015, que Dieu, il est le seul vrai Dieu, l'unique. Et ce récit est là aussi pour nous montrer la toute-puissance de Dieu, sa toute-puissance créatrice, sa volonté d'avoir voulu créer, son bonheur, sa joie de nous avoir créés. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il a un plan divin. Et par plusieurs aspects du récit, Dieu nous fait découvrir ceci. Premièrement, l'arrangement du texte que nous avons lu. Dans les 6 premiers jours de la création, il y a une répétition parfaite entre les 3 premiers jours que nous avons lus, qui décrivent comment Dieu a formé, façonné la terre, et les 3 derniers jours qui décrivent comment Dieu a rempli la terre qu'il avait façonnée. Voilà la réponse au verset 1, où nous apprenons que la terre était informe et vide. Tout n'était que chaos, et Dieu a dû façonner tout ça, lui donner la forme qu'il voulait. Ça s'est passé comme ça, et pas autrement. Et Moïse voulait absolument que ses auditeurs, et nous lecteurs aujourd'hui, nous ne le manquions pas. Alors, j'ai pas inventé ceci, ça... Ça vient de commentateurs bibliques éminents, reconnus, et je remercie pour ça Monsieur Youth, qui travaille aux États-Unis à Wheaton, et dont est tirée une grande partie de ses commentaires. Deuxième point, après avoir parlé de l'arrangement du texte en lui-même, les correspondances ou les parallèles. Remarquez qu'entre les 3 premiers jours et les 3 derniers jours, il y a des parallélismes, des correspondances parfaites. Le premier jour, la lumière fut créée. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Eh bien, le 4e jour, Dieu place le soleil et la lune. Jour 1, jour 4. Le 2e jour, Dieu crée le ciel qui va séparer les eaux du dessus de celles du dessous. Eh bien, au 5e jour, Dieu remplit le ciel avec les oiseaux et l'eau avec les poissons. Le troisième jour, Dieu sépare l'eau de la terre ferme et il crée la végétation. Eh bien, que se passe-t-il au sixième jour ? Il remplit la terre avec la vie animée, animale, et avec l'homme pour régner sur tout ça. C'est magnifique de symétrie. Également, et ça vient plutôt d'un enseignant juif, un rabbin, pour ceux qui vont apprendre l'hébreu avec Roy et Josué, inscrivez-vous, parce que ça, c'est une opportunité en or. On n'a pas cette chance, nous, à Bordeaux. J'aimerais bien être là le 13 juin. Il y a une perfection numérique dans ce qui est écrit en hébreu. Toute la structure des jours de la création est basée sur un système d'harmonie numérique qui utilise évidemment le chiffre 7, le chiffre, comme on dit, hein, parfait, le chiffre de Dieu. Il y a évidemment 7 jours, vous le savez, hein, du lundi au dimanche. Et les mots Dieu, Elohim, cieux, Samaïm et terre, Eretz, qui sont les trois mots clés qu'on retrouve dans le verset 1 au commencement. Dieu, Elohim, créa les cieux, Samaïm et la terre, Eretz. Et bien ces trois mots sont répétés dans le récit de la création par multiples de 7. Dieu va apparaître 35 fois, 5 fois 7. Cieux apparaît 21 fois. Je laisse aux matheux le soin de calculer la division. Et terre également 21 fois. Et pour couronner le tout, au septième jour, c'est un seul verset, une seule phrase. Septième jour qui contient trois phrases. Chacune de ces phrases a 7 mots et contient au milieu de chaque phrase le septième jour. C'est une littérature qui est de qualité. C'était pas fait pour dire « Ah oui, ben, on va vous raconter une belle histoire et c'est comme ci, comme ça. » Comme on pourrait raconter aux enfants des histoires un peu fantastiques auxquelles on lui dit « Mais c'est une histoire d'enfant, tu n'y croiras pas. » Non. L'intention de Moïse, là, c'est que nous y croyons. C'est de qualité. Ce n'est pas de la poésie, malgré toutes ces jolies choses, mais c'est de la prose narrative. Tout le récit est écrit dans le temps, non pas du passé, mais du présent, notre temps, aujourd'hui. Le temps de narration normale de l'hébreu. La Genèse ne fait pas partie de notre passé. En fait, et pour citer Yousse, Moïse présente l'histoire de la création comme étant ce qu'il s'est passé dans l'espace-temps dans lequel nous vivons. C'est notre histoire. Le but de Moïse n'était pas de raconter une nouvelle mythologie pour remplacer celle des dieux égyptiens, celle de plus tard de tout ce qui se passe en Assyrie, du Babylone, etc. Non, ce n'est pas une nouvelle mythologie. Le but de Dieu, derrière son serviteur Moïse, n'était pas de raconter une fiction pour nous faire rêver. Waouh, la terre a été faite en 7 jours. Waouh, l'homme a été fait à partir de rien. Non, ce n'est pas pour nous faire rêver. Le récit de la création, c'est comme un coup de poing, un uppercut direct dans la face, au visage des mythologies païennes, des nations qui entouraient le peuple juif. Chaque jour de la création attaque en fait un dieu païen, ce en quoi croyaient les Égyptiens. Alors, voyons ça ensemble. Au premier jour, les dieux de la lumière et des ténèbres n'existent plus. La lumière et les ténèbres, finalement, ce sont des créations de Dieu. Et ainsi de suite, le second jour, exit les dieux du ciel et de la mer. Jour 3, oubliez les dieux de la terre et de la végétation. Jour 4, mais qui ira ? Le dieu soleil ? Non, c'est qu'une création de Dieu. Qui est la déesse grecque ? C'est l'aînée de la lune. Non, c'est qu'une création, la lune. Finalement, c'est un satellite de la terre. Bref, il n'y a pas de star gods, les dieux des étoiles. Il n'y a que des étoiles créées par Dieu pour illuminer la nuit et nous émerveiller encore aujourd'hui. Jour 5 et 6, oubliez les dieux animaux. Finalement, et n'oublions pas que nous restons des hommes, et uniquement des hommes et des femmes, des mamans. Bonne fête encore à vous. L'humanité n'est pas divine. Nous ne sommes pas nos propres dieux. Nous sommes, chacun d'entre nous, des créations, des créatures merveilleuses que Dieu a voulu
Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si tu existes ce matin, si tu as pu venir, c'est que Dieu l'a voulu et il t'aime. Il te permet de vivre. Bref, du plus grand au plus petit, nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Ça, c'est l'objet d'un autre message. Et vous pourrez le lire dans la suite. Ainsi, la réalité biblique remplace le mensonge, le mythe. Et pour Moïse et ses auditeurs, c'est ce que nous devons retenir aujourd'hui. Ces jours n'étaient pas des métaphores ou uniquement écrits de façon belle littéralement. Et il y a beaucoup d'interprétations sur ce que peuvent être ces un jour deux, jour trois. Et ce n'est pas mon rôle aujourd'hui de vous dire toutes les théories qui existent. Alors je vous laisse aller questionner votre pasteur, les anciens, ou venir me poser des questions à la fin. Alors il n'y a pas de bonne réponse, hein, je le rappelle, il n'y a que des interprétations et ce que Dieu veut nous enseigner. Mais voilà, Genèse 1, c'est quelque chose qui est historique, qui s'est réellement passé. L'histoire littérale de ce que Dieu a fait lorsqu'il créa les cieux et la terre. Il l'a fait en 6 jours, 6 jours bien à lui. Il l'a fait dans l'ordre qui est indiqué dans ce qu'on a lu. Le récit de la Genèse, c'est quelque chose qui est magnifique. Magnifique, comme on peut entendre des fois. Je vois qu'il y a des adeptes de certaines émissions parmi nous. C'est majestueux de lire la création, de voir ce que Dieu a fait dans le temps et dans l'espace, dans notre temps, notre espace-temps. C'est notre histoire, ça nous appartient et nous sommes encore dans ce temps-là. Et après vous avoir parlé du contexte un peu du coup local, historique, on a vu que Dieu forme notre univers. Et j'aimerais qu'on plonge ensemble, plus en détail maintenant, qu'on ralentisse encore la cassette vidéo de la Genèse. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent ce grand classique de la littérature, qui l'ont déjà lu, mais je suis en train de le relire, et moi j'y prends un plaisir incroyable. Pas autant que quand je lis la Bible, mais j'aime lire ce genre de livre. Ce livre, c'est les chroniques de Narnia, de C.S. Lewis. Alors, ça peut vous faire sourire en vous disant « Ouais, c'est une histoire pour des gamins, il y a des jolies vidéos qui ont été faites par Disney. » En fait, C.S. Lewis est un de mes auteurs chrétiens favoris. Et quand il a écrit ce livre, il avait un but derrière. C'était de raconter aux enfants comment Dieu pouvait agir dans leur vie, comment essayer de le reconnaître. Et voilà, en fait, c'est comme des nouvelles paraboles de ce que Dieu a raconté dans la Bible, mais plus pour les enfants. Et finalement, il faut un adulte pour leur expliquer ceci. Alors, pour tous les futurs parents, et tous ceux qui sont déjà parents, je vous invite à lire les chroniques de Narnia et d'expliquer en quoi c'est chrétien et qu'il y a un message chrétien derrière ce roman de fiction. Et en fait, dans le tout premier livre de ces chroniques, l'auteur, donc C.S. Lewis, essaye de capter ce qui s'est passé à la Genèse et de le retranscrire dans un récit qui sera adapté à nous, pauvres humains. Et en fait, Aslan, donc le lion qui va créer le monde de Narnia, est là, au début de la création du monde de Narnia. Et en fait, il y a deux enfants qui arrivent et qui sont arrivés un peu là par hasard et qui vont voir la création du monde. Et en fait, Aslan est là, il ouvre la bouche et il commence à chanter des notes graves, des aigus, avec un rythme, boum, boum, qui va commencer à donner la vie. Et alors qu'il chante, apparaissent dans le noir des couleurs, la couleur vert, le jaune, etc. Bref, et ça prend forme à ses pieds, et ça se répand, et ça forme le monde. Les fleurs, la bruyère, l'herbe apparaissent sur le flanc d'une colline qui se forme, qui se crée devant lui, et qui se déverse. Et lorsque la musique accélère, que le rythme s'engoue, les oiseaux s'envolent, les gazelles bondissent, etc., etc. Les papillons commencent à tournoyer et vient à la toute fin la grande célébration lorsque le chant entre en crescendo dans un rythme encore plus sauvage. pour donner vie finalement à tout ça. Et en Genèse, comme on l'a lu tout à l'heure, Dieu est le soliste de notre histoire, de notre espace, de notre temps. Et nous, en tant que lecteurs, et Moïse ou les auditeurs de l'époque sont comme ceux qui vont faire l'écho, le cœur. Dieu dit que la lumière soit. Et dans vos Bibles, c'est écrit avec des guillemets. Et à côté, on a l'écho qui répond. Et la lumière fut. Et c'est comme ça pour chaque jour. Que l'herbe verte soit là. Et cela se passa ainsi. Et Dieu vit que c'était bon. Bref. Voilà donc le monde informe qui flotte dans l'espace, comme on l'a chanté, comme un morceau d'argile que Dieu va façonner en tant que potier. Et l'Esprit de Dieu flottait au-dessus des ténèbres dans l'anticipation de son acte créateur, verset 2, avec comme seul outil sa parole, la révélation de sa volonté. Et qui est la parole ? La parole était au commencement, et hein, Jean chapitre 1, la parole Jésus est la parole de Dieu. Et Dieu dit, et à chaque fois on lit dans Genèse 1, et Dieu dit, et c'est tout, il n'y a pas plus. En créant toute chose à travers sa parole, la pensée de Dieu se forme exactement dans sa moindre parcelle, dans sa moindre volonté, dans le plus petit des atomes qui constituent les cellules de nos corps rassemblés aujourd'hui. Le vaste univers a été formé par sa seule pensée et sa seule volonté, comme chacun des millions de milliards de, pas de sabords, mais de cellules qui nous composent. Allez, je m'étends, il est déjà midi 2, peut-être que vos estomacs gargouillent, commencent à gargouiller, pour ceux qui n'ont pas pris de petit déjeuner, mais je ne vais pas vous laisser sans continuer à approfondir ce texte qui est tellement merveilleux, incroyable. Jour 1, la lumière. Mais qu'est-ce que la lumière ? Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour, versets 3 à 5. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? Mais le soleil et la lune, ils sont arrivés qu'au quatrième jour. Je vois qu'il y en a qui se sont posé la question, j'ai eu un grand oui là-bas. D'où venait la lumière du jour 1 ? Eh bien, elle venait bien sûr d'une autre source que le soleil. Et vous allez me dire, mais est-ce possible ? Tu m'as dit que tu étais scientifique, que tu avais une formation maternelle supérieure. Ben oui, et je crois que la lumière venait d'une autre source, parce que la Bible nous dit d'où elle venait. Apocalypse 22, verset 5. Ça commence avec la lumière, d'une autre source que le soleil. Ça finit avec la lumière qui ne vient pas du soleil. Et il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront pas besoin de lumière ou de lampe ou de soleil. Et c'est écrit, c'est pas moi qui l'invente. Car Dieu sera leur lumière et ils régneront pour toujours. Dieu sera leur lumière. Je vais citer un autre grand théologien que vous connaissez peut-être, Calvin. Calvin dit, par conséquent, le Seigneur, par l'ordre de la création, témoigne qu'il détient la lumière dans ses mains, qu'il est capable de nous la donner sans le soleil et la lune. Et vous voyez qu'à la fin de chaque jour, ou plutôt au début, on dit, on lit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le xème jour. Et dans la pensée juive, c'est comme ça que commencent les journées. Les ténèbres, d'abord, à la surface de la terre, ont été suivies de la lumière du premier jour. Et maintenant, vous comprenez pourquoi ? Minuit est à minuit, en pleine nuit. Et c'est zéro heure. Votre journée commence pas à 8 heures du matin, mais elle a commencé alors que vous dormiez à zéro heure. Bref, Dieu vit que c'était bon. Et il dit, c'était bon, la lumière était bonne. Et voici la première de 7 bénédictions. Le grand artiste qui est Dieu admire le travail de ses mains. Il est le potier qui a façonné l'univers. C'est bon, c'est parfait. Et ça va remplir le rôle que lui a voulu, ce qu'il désire. Et à la fin, à la toute fin, Jésus-Christ apportera l'éternelle lumière à son peuple, on l'a lu, à tous ceux qui croient en lui et à toute la création. En ce moment, il y a la fête du fleuve à Bordeaux et c'est l'occasion d'avoir des beaux feux d'artifice. Et ma femme est fan de feux d'artifice. Imaginez la fin de toute chose comme étant une explosion de lumière, le plus grand final de feux d'artifice que vous ayez jamais vu. Et imaginez vivre chaque jour dans ça. Waouh, Jésus, j'ai hâte d'être auprès de toi là-haut, voir tout ça. Jour 2, la lumière glissa dans les profondeurs scintillantes de la terre non travaillée, non ordonnée. Et Dieu parla à nouveau, et je ne vais pas relire le texte, mais vous l'avez sous les yeux. Et on parle de cette étendue, en hébreu, qui signifie un endroit vertical, qui s'étend à travers le cœur d'une masse d'eau et qui se divise en deux couches. Finalement, l'une au-dessus, l'autre en dessous, l'étendue visible, le ciel, et les eaux de la mer en dessous. Le ciel, c'est le bleu que vous pouvez voir en levant les yeux, en roulant pour venir ou en vous baladant. Et je ne sais pas si parmi vous, il y a beaucoup d'étudiants à la fac de Rangueil, mais vous devez étudier ça en physique. Pourquoi le ciel est bleu? Et pour tous ceux qui ne le savent pas, et pour les enfants, je vous invite à aller les rencontrer, ils sauront vous donner des réponses. Je l'ai apprise aussi, donc ceux qui veulent savoir, je peux leur dire à la fin. Bref. Et puis Dieu nomme, il donne un nom. Il dit, voilà, ça s'appellera jour, ça s'appellera nuit, ça c'est le ciel. C'est l'évidence que Dieu maîtrise tout, qu'il est souverain. Dans ce qu'il façonne, ce n'est pas dû au hasard. On vous dit juste, ah ben oui, il y a alors un milliardième de, enfin 10 puissance moins, je ne sais pas combien de chances que la vie sur Terre soit arrivée. Moi, je ne crois pas à la chance. Je fais encore une diversion, mais il y a un livre que je vous recommande pour tous ceux qui cherchent vraiment comment concilier science et foi. C'est un livre du pasteur Timothy Keller qui s'intitule « La raison est pour Dieu ». Et dans ce livre, il dit qu'il est bien plus facile de croire qu'il y a une volonté derrière la création que de croire que c'est uniquement le fruit du hasard. Vous allez vous torturer l'esprit à croire que ça vient du hasard, alors que si vous croyez que c'est Dieu qui l'a fait, comme moi je le crois, waouh, quel soulagement. Et pourtant, et ça satisfait mon âme de rationnel, mon âme de scientifique, ça je vous l'assure. Bref, fin de la dispersion de la parenthèse. Dieu règne sur toute sa création et plus tard, Dieu confiera la domination de la terre aux hommes, à Adam, au premier homme, parce qu'il va lui laisser nommer chacune des créatures vivantes. La nomination de ces éléments, jour, nuit, ciel, soleil, lune, etc., est faite pour nous rappeler qu'il est Dieu, qu'il a créé ces choses, et que ça, les dieux païens n'existent pas. Il n'y a pas de dieu du ciel, il n'y a pas de dieu de la mer, il n'y a pas de dieu des animaux, etc. Ce ne sont que des créations, des créatures de Dieu. Accélérons. Jour 3. Dans les deux premiers jours de la création, Dieu donne forme et met de l'ordre dans la création. La terre est alors réchauffée par la lumière et à présent enrobée de bleu, drapée de nuages flottant au-dessus de la mer. Ça ne vous invite pas à quelque chose ? Si, bien sûr, notre curiosité est accentuée au fur et à mesure que les jours sont décrits. Et maintenant, au troisième jour, Dieu va parler deux fois plus. Ses paroles complètent la formation de la terre. Et il fait apparaître le sec dans un premier temps. Il n'y a pas eu de nouvelle création à ce moment-là, mais une mise en ordre finale. Il a séparé la sec qui était au fond de l'eau. Et hop, vous avez les îles, vous avez les continents et la Pangée, pour ceux qui s'intéressent un peu à tout ça. Le chaos avait disparu et le monde que nous connaissons avait reçu sa forme. Et ensuite, dans ces secondes paroles du troisième jour, nous avons la transition vers le thème de la plénitude. Quand il va remplir la terre au jour 4, 5, 6, parce qu'il amène la vie végétale à l'existence, les arbres fruitiers, les plantes, etc. Voilà le troisième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Et cette fois, vous oubliez les dieux arbres, les dieux de la terre, de la végétation, les dieux de la fertilité. Il n'y a pas dieu de la fertilité, il n'y a que Dieu qui donne en abondance aux petits oiseaux, aux lys des champs. Qui sommes-nous pour nous inquiéter ? Dieu s'occupe de chacun de nous. Il veut façonner nos vies comme il a façonné notre univers. Mais comment nous le laissons agir dans nos vies ? Bref, voilà l'histoire des trois premiers jours de notre monde. De notre monde. C'est important. Pour terminer, j'aimerais vous dire que, comme, et je vous le répète, hein, vous avez compris que c'était un peu mon slogan, c'est aujourd'hui, Christ donne forme à ma vie. On l'a chanté. Change mon cœur, Seigneur. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Mais à quel point c'est notre désir ce matin? La Bible commence et termine en décrivant un monde qui est rempli de lumière sans soleil et montre que Dieu est la source de la lumière. Et avec ça, nous comprenons maintenant pourquoi Jésus nous dit en Jean 8, verset 12, et je pense que Michel vous a déjà prêché là-dessus, les sept « Je suis » de l'évangile de Jean. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Qui veut avoir la lumière de la vie aujourd'hui? C'était incroyable pour Jésus de dire ça à ce moment-là. Bon, c'est encore l'occasion d'un autre message que je n'ai pas encore préparé, mais un jour je le ferai. Pourquoi? Parce que Jésus, lorsqu'il dit ça, c'était une proclamation audacieuse, parce qu'il était dans le trésor du temple, sous des torches énormes qui brûlaient dans la nuit de la cérémonie de l'illumination du temple. Alors, je l'ai découvert, hein, tout comme vous, en étudiant ce passage, mais les Juifs célébraient dans cette nuit-là la Shekinah, la gloire de Dieu. Cette nuit et cette colonne de feu qui les a menés jour et nuit lors de la sortie d'Égypte jusqu'en terre promise, la Shekinah, la gloire de Dieu, et bien ils célébraient ça. Et Jésus, il leur dit, quand ils célèbrent la gloire de Dieu, mais c'est moi la gloire de Dieu, c'est moi la Shekinah, c'est moi la lumière des hommes, je suis la lumière du monde. Imaginez, c'est une déclaration solennelle de sa divinité. Une déclaration qu'il identifie de façon ultime à ce que nous lisons en Genèse 1, verset 3. La lumière, c'est Jésus. Et on l'a vu dans Apocalypse. La ville n'a pas besoin de soleil ou de lune pour briller sur elle, car la gloire de Dieu lui donne la lumière et sa lampe est l'agneau de Dieu. On a pris la Sainte Cène, c'est pour nous rappeler que le sang a été versé pour nous. Ne méprisons pas ce que Dieu a fait. Comme l'a dit notre président tout à l'heure, je perds mes mots, désolé, Étienne, c'était un acte gratuit pour nous d'accepter que Jésus est mort à la croix et que Dieu l'a ressuscité, mais ça lui a coûté à Dieu. Alors quand on prend la Sainte Cène, ne le faisons pas dans un esprit qui dit « c'est normal, je suis content, je le fais », etc. Non, prenons soin de nous rappeler à chaque instant que si Jésus n'était pas mort sur cette croix, ce serait moi, pour mes péchés, parce que je le mérite. Je ne mérite pas la grâce, mais je méritais le jugement. Et là est toute la différence. Bref. Et Jésus n'est pas que la lumière. Il est le Créateur. Il est la parole de Dieu. Et Dieu dit, et cela se passa ainsi, et Jean nous le rappelle dans son évangile, au chapitre 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole. Ah ben, ça tombe bien. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la parole était avec Dieu. Et non seulement elle était avec, mais la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites à travers lui. Et rien de ce qui n'a été fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Rien n'a été fait sans Christ. Et Paul nous dit encore de Jésus, pour lui, donc à travers lui, par lui et pour lui, toutes choses ont été créées dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles, les trônes, les dominations, les dirigeants, les autorités, toutes choses ont été créées à travers lui et pour lui. Colossiens 1, verset 16, pour ceux qui veulent vérifier, et vous devez vérifier ce que je raconte. Bref. Et Apocalypse 4, on a dit que nous couronnons, on a chanté, Seigneur, Jésus, nous te couronnons, nous te donnons la gloire. Les 24 anciens qui étaient sur les trônes s'écrient, digne es-tu notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et par ta volonté, elles ont existé et ont été créées.
Je le répète, mais si j'existe, si tu existes, si nous sommes là ensemble ce matin, c'est parce que Dieu l'a voulu, parce que Jésus nous a créés. Il a permis que, il permet que nous existions et il nous veut, il te veut. Waouh! Il te veut d'un amour tellement intense, tu peux pas imaginer. Et je suis à fond avec la prière de Luc tout à l'heure. Jésus me veut et moi je veux répondre à cet amour. Et il m'a délivré de mon esclavage. Et maintenant je suis là et waouh, merci Seigneur. Nous ne sommes pas des êtres insignifiants. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il t'a créé. Il a voulu que tu sois là. Et maintenant il veut, désire une relation sincère avec toi. Il veut que tu lui dises tout. Tout ce que tu as sur le cœur. Et ça fait peut-être des années que tu vis ta vie chrétienne. Et que tu te dis aujourd'hui, mais je n'entends plus Dieu. Il ne me répond plus. Ou je ne le comprends pas. Pourquoi je vis ça ? Mais Dieu veut façonner notre vie, tout comme il a façonné l'univers. Laisse-le façonner ta vie. Seigneur, laisse-moi façonner ta vie. Et c'est dur pour quelqu'un de scientifique comme moi de lâcher prise. J'aime bien contrôler toutes choses, prévoir, je ne sais pas pour vous, mais les vacances, où est-ce qu'on va et tout. Et heureusement, Dieu a mis un remède à ça. Il m'a donné ma femme. Et ma femme, elle me dit, mais arrête, on ne prépare rien, on y va et puis on découvrira sur place et tu verras, ce sera génial, fantastique et tout. Et je la remercie pour ça. Bon, ça me stresse, hein, mais d'un autre côté, ça me soulage parce que je me dis, bah, Seigneur, tu contrôles toutes choses et tu m'as donné une femme merveilleuse et je vis par la foi avec elle. Merci Seigneur pour ma femme et aussi pour Dieu a créé l'enfant qui va naître en elle. Et ça, bon, c'est encore un autre message, c'est les versets, les jours 4 à 6, la création de l'homme. Une âme éternelle. Il y a une âme éternelle qui est en train de grandir là. Et ça, c'est incroyable. Vous êtes tous, vous avez tous en vous une âme qui est éternelle. C'est-à-dire qui ne mourra jamais. Et ça, ça implique un choix. Ça implique un choix. Comment je vais vivre ma vie éternelle ? Et elle commence maintenant. Hein. Comment je vais la vivre ? Avec ou sans Dieu ? Et quand je vois tous ceux qui m'entourent, qui choisissent de vivre sans, je ne peux que pleurer. Je ne peux que pleurer. Combien dans nos familles ne veulent pas vivre avec Dieu. Elles sont condamnées, ces âmes, parce qu'elles sont éternelles. Elles ne peuvent pas mourir et dire c'est fini, c'est pas vrai. Il y a le jugement de Dieu qui les attend. Et notre rôle, c'est de leur dire, mais tu sais, ce jugement, il a été pris à ta place par Jésus à la croix. Et que Jésus maintenant veut vivre en toi, parce que Dieu l'a ressuscité. Mais il faut que tu l'acceptes. Ça, c'est gratuit, mais Dieu a payé à la croix. Nos vies ont de la valeur pour Jésus. Il veut vraiment nous façonner à son image, nous transformer, nous changer. Change mon cœur, Seigneur. Christ est la lumière, Christ est le Créateur, il est la parole de Dieu. Il est celui qui met de l'ordre dans le chaos de nos vies. Ou alors qui met un peu plus d'ordre dans vos vies déjà un peu trop ordonnées à votre image. Laissez-lui toute la place. Laissez-le prendre le contrôle, être aux manettes. Comprenez que Dieu vous aime et qu'il veut le meilleur pour vous. Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de celui, ceux qui aiment Dieu. Même dans la souffrance, dans la détresse, dans la recherche d'un travail, dans les échecs à l'école, dans la maladie, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour nous, on n'arrive pas à comprendre, mais il faut lâcher prise et dire, ben Seigneur, je ne comprends pas, mais je sais que tu m'aimes. Et que si tu... Il y a quelque chose de bon qui va arriver après. Et si ça me permet d'aller plus vite auprès de toi, ben moi je fonce, comme Paul le disait, mais accomplissons ce que Dieu veut avec nous sur terre. La puissance, Jésus est là, qui nous tend la main, et c'est cette puissance qui a mis les étoiles dans l'espace, qui a étendu l'univers en y orchestrant la vie, la complexité de nos organismes. Il veut agir en chacun d'entre nous, si nous venons à lui, si nous l'acceptons, fini les jours ténébreux, la dépression, bonjour à la lumière, à la joie, à la paix, en chacun d'entre nous. C'est accessible. Attention, je ne dis pas que ça ne va pas revenir, parce que nous sommes des êtres humains.
Mais notre rôle, et mon invitation ce matin, l'invitation que Dieu veut vous laisser avec Genèse 1, c'est « Laisse-moi façonner ta vie. » Dieu veut façonner ta vie, tout comme il a façonné l'univers. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour nous aujourd'hui. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie faite d'obligations. C'est une vie faite de joie, de paix et d'amour. Laisse Dieu façonner ta vie. Qu'importe ce qui se passe dans ta vie, qu'importe le temps, depuis le temps duquel tu connais Dieu, laisse-le façonner ta vie. Voilà, on est en plein printemps, c'est l'heure du renouveau. Laisse-le façonner ta vie. C'est notre Dieu, il façonne nos vies, il lui donne la forme, il enlève le chaos, tout ce qui ne lui plaît pas, il chasse les ténèbres, il est la lumière du monde. Il l'a fait pour moi, je me force à lui demander chaque jour de le faire pour moi, il le fera pour toi. Je vais prier pour vous ce matin et encore une fois,